Democracy.
Democracy. Démocratie.
La France, c'est ce que l'on appelle une république démocratique.
Où est la démocratie, mes chers collègues?
Non, la France n'est plus une démocratie, là, on fait tout semblant.
C'est, encore une fois, surtout un régime en perdition.
Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil.
Révolte! La République, c'est moi!
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai envie de péter un abribus tous les jours.
Je pense que nous sommes en train de traverser la crise démocratique la plus grave que la France ait connue.
Une réforme des retraites maintenue envers et contre tous.
Un déferlement de 49-3.
La chaise vide de Matignon pendant la trêve olympique.
La France, pays des droits de l'homme, est qualifiée de démocratie défaillante.
Mais qu'en est-il vraiment?
Les gouvernements cultivent la politique de l'autruche face aux mobilisations.
Pendant que la répression policière étouffe la voix du peuple.
Contraints de trouver d'autres modes d'action, les militants écologistes désobéissent pour se faire entendre.
La défiance des citoyens envers ses représentants fait la courte échelle aux théories du complot.
Le monde politique, qui dresse barrières et obstacles aux femmes, demeure un royaume masculin.
Alors, manifester sert-il encore à quelque chose?
La désobéissance civile est-elle le dernier recours du peuple pour sauver la planète?
Une démocratie sans maintien de l'ordre est-elle imaginable?
Comment le complotisme attise-t-il le chaos politique?
Pourquoi les institutions démocratiques ferment-elles leurs portes aux femmes?
Immersion dans les entrailles de notre démocratie pour en comprendre les dérives.
Démocrache, une série documentaire en 5 épisodes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de Sciences Po Rennes.
C'est comment dire, un projet qui va défigurer complètement le paysage, qui n'apporte absolument rien.
Moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'on détruit la nature. Mettre du béton partout, c'est pas l'avenir dont j'ai envie.
Mais que faire quand toutes les voies de recours contre un projet climaticide ont échoué? Les militants n'ont plus qu'une seule solution.
Quand il y a des lois qui sont injustes, alors on doit désobéir.
Des militants qui jettent de la soupe sur des œuvres d'art, certains qui se collent les mains sur le tarmac d'un aéroport, ou d'autres encore qui retirent les publicités d'abribus. Impossible de passer à côté de ces actions coup de poing qui froissent les nerfs du pouvoir.
Ce sont des scènes d'horreur où nous avons des centaines de personnes qui sont venues pour casser la République, je crois.
Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme.
Jusqu'à enclencher une forte répression. Nous nous sommes intéressés à la désobéissance civile, ces modes d'action qui divisent le débat public. Désobéir au droit et à l'œil, un épisode de Chiara Oduro, Luna Baudouin-Gaujon et Robin Peter.
Mais de quoi parle-t-on exactement? Pour mieux comprendre, nous avons rencontré Sylvie Olitreau, sociologue et directrice de recherche en sciences politiques à l'École des hautes études en santé publique.
C'est en tout cas une action qui se veut illégale, mais non violente. Et en pleine conscience, c'est-à-dire en fait le militant, il doit en gros adhérer à l'idée qu'il rentre dans une activité illégale et qu'il le fera en toute conscience, et avec un objectif politique. Alors l'objectif politique, c'est soit contester une loi, soit remettre en cause ou vouloir faire évoluer une politique publique.
Pourquoi les militants prennent-ils le risque de se faire arrêter?
Pour eux, c'est, en tout cas, ils le justifient toujours comme ça, y compris dans les procès, c'est qu'ils avaient tenté plein d'autres registres d'action, la pétition, parfois même l'expertise, parfois même ils ont été dans les espaces de concertation. Ils ont tout essayé et qu'à un moment, ils sentent que la seule solution, à la fois pour se faire comprendre et entendre par l'opinion publique, mais aussi qu'il y ait une réaction de l'État, c'est de rentrer dans les illégalismes.
En mars 2023, des militants écologistes manifestent contre un projet de méga-bassine à Sainte-Soline. À l'époque, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, condamne cette manifestation en affirmant que les militants cassent la République. Pour Sylvie Olitreau, s'ils critiquent ouvertement le système et utilisent un moyen de dernier recours pour s'exprimer, les désobéissants restent des acteurs de la démocratie.
C'est une autre manière de faire vivre la démocratie, mais la démocratie par les citoyens qui interpellent les États et les institutions. Donc c'est très clairement dans le récit démocratique.
De son côté, Albert Augien, chercheur en sociologie au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales, soutient que la désobéissance civile ne peut avoir lieu que dans un régime démocratique.
La raison, elle est très simple, c'est que comme on demande le passage par la justice, donc comme il y a une sanction, si le parquet ou la justice n'est pas indépendante, ou si elle est aux mains d'un parti politique dans un cadre totalitaire, ou si, comme en France, elle est un peu à la botte du pouvoir, mais elle n'est pas vraiment indépendante, se mettre en désobéissance, c'est absurde parce qu'il n'y a aucun juge, on ne considérera pas votre cas, on vous mettra directement en Sibérie. Et c'est très clair dans les termes, hein, parce qu'en dans les pays totalitaires, on appelle ça des dissidents et pas des désobéissants. Pour que le processus de désobéissance ait lieu, il faut que la démocratie soit un tant soit peu installée.
Selon la conception d'Albert Augien, les militants souhaitent aller devant la justice pour s'exprimer. Pour lui, la désobéissance civile ne peut donc s'opérer que dans un état de droit.
Mais cette définition n'est pas universelle. Prenons un exemple. En 2022, dans la République islamique d'Iran, Mahsa Amini a été arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal ajusté son voile. Elle est morte en détention, provoquant une vague de contestations inédites portée par le slogan « Femme, vie, liberté ». Dans la rue, des milliers de femmes ont défilé contre l'obligation du port du voile imposé par le pouvoir autoritaire. Certaines se sont coupées les cheveux, un geste hautement symbolique dans ce régime liberticide. Aujourd'hui encore, des femmes refusent de porter le voile. Et ce n'est pas un exemple isolé, vous connaissez sûrement cette image d'un homme se tenant devant une colonne de chars lors du massacre de la place Tiananmen en Chine en 1989.
Nous avons cité quelques exemples de désobéissance civile depuis le début de cet épisode. Prenons maintenant un peu de recul et remontons aux origines de ce concept.
Il existe des lois injustes. Consentirons-nous à leur obéir ? Tenterons-nous de les amender en leur obéissant ? Ou les transgresserons-nous tout de suite ? Si le gouvernement veut faire de nous l'instrument de l'injustice, alors je vous le dis, enfreignez la loi.
Cette phrase n'est pas de nous, mais du philosophe Henry David Thoreau, qui l'écrit en 1849. C'est le premier à théoriser le concept de désobéissance civile. Pour lui, c'est à l'individu de se lever seul contre ce qu'il perçoit comme des injustices. Des années après, Gandhi reprend à son compte la pensée de Thoreau et y ajoute une dimension collective et non-violente. Sa marche du sel de 1930 rassemble 50 000 Indiens qui protestent contre la taxe du sel imposée par les colons britanniques. Dans la lignée de cette mobilisation massive impulsée par Gandhi, la philosophe Hannah Arendt estime que la désobéissance civile s'inscrit dans une action collective. Cette forme de mobilisation prend alors une dimension plus démocratique que l'idée initiale de Thoreau. Ce n'est plus une seule personne qui se lève contre l'État, mais au contraire, un groupe d'individus qui tente de faire peser sa voix par le nombre.
Aux États-Unis aussi, les militants du mouvement des droits civiques s'emparent de ce moyen d'expression.
My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
En 1955, Rosa Parks refuse de s'asseoir dans la partie du bus réservée aux personnes noires. Elle proteste contre le système de ségrégation raciale. Martin Luther King appelle dans la foulée à un boycott de ces bus qui est massivement suivi par la population afro-américaine. Moins d'un an après, la Cour suprême rend anticonstitutionnel ce système raciste dans les bus. Un petit pas qui ouvre la voie à la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis en 1964.
Vous êtes bien sur Canal B, Vous écoutez Désobéir au droit et à l'œil, le deuxième épisode de la série Démocrache, réalisé par les étudiants et étudiantes en master de journalisme de Sciences Po Rennes.
En France, c'est dans le Larzac, dans les années 70, que les graines de la désobéissance civile ont germé.
Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons.
C'est dans ce paysage rural, à cheval entre l'Aveyron et l'Hérault, que des paysans se lèvent contre l'État.
Nous garderons l'Arzac.
En 1971, le gouvernement en place décide de l'extension du camp militaire installé depuis plus d'un siècle sur le plateau du Larzac. Les autorités souhaitent alors exproprier une centaine de paysans de leurs terres, une décision qui n'est pas de leur goût.
L'apprendre par la télévision froidement comme ça que c'est décidé, l'extension du camp va être faite de 3000 à 17000 hectares, ça c'est une chose on n'a pas pu l'accepter.
Dès l'annonce du projet d'agrandissement, des agriculteurs locaux, rejoints par des militants de divers horizons, s'y opposent. Ils créent ensemble l'association de sauvegarde du Larzac et de son environnement.
Après mûre réflexion et bien des réticences, les paysans du Larzac ont décidé de passer dans l'illégalité, en renvoyant leurs livrets militaires, en incitant leurs sympathisants à ne pas payer une part de l'impôt, en labourant pour ensemencer des champs achetés par l'armée, ou en occupant par non-violents interposés des fermes à l'abandon que ces derniers ont rendues habitables, fermes qui appartenaient depuis peu aux militaires.
Ce mouvement d'occupation marque la naissance de l'une des premières ZAD pour zone à défendre en France. Elle va perdurer 10 ans durant, et aboutira à une victoire des militants. À son arrivée au pouvoir en 1981, François Mitterrand ordonne l'abandon du projet. Cet exemple, qui fonde le mouvement de désobéissance civile écologiste en France, a déjà plus de 50 ans. Mais une personnalité bien connue y a fait ses armes.
Ça veut dire que le combat que nous menons aujourd'hui contre les OGM est plus que jamais nécessaire. Il faut continuer ce combat, continuer à détruire les parcelles d'essai qu'essayent d'imposer les firmes agrochimiques.
Vous avez peut-être reconnu la voix de José Bové, l'un des fondateurs de la Confédération Paysanne. Le paysan à la longue moustache est notamment connu pour ses fauchages d'OGM, ce qui lui a valu de nombreux procès. Entre lutte écolo et désobéissance civile, le courant passe bien, comme le remarque Sylvio Litro.
La désobéissance civile et l'écologie, bon, je dirais que c'est un vieux compagnon. Alors, ça ne veut pas dire que le mouvement écologiste n'a fait que de la désobéissance civile, mais il est vrai que, par exemple, Greenpeace, dès le début, s'est inscrit dans l'idée de la désobéissance civile, avec ses modes d'action illégaux, qui étaient plutôt de l'action directe non violente, et pas des actions de masse à la, je dirais, Extinction Rebellion. Le fait aussi qu'en France, ça s'est manifesté au moment... les OGM, il y a eu une alliance entre la Confédération Paysanne et Greenpeace sur la question des OGM, et donc une sorte de, d'alliance stratégique aussi. Donc la désobéissance civile a été une sorte de... Oui, qui a permis de, à la fois à l'ONG et à la Confédération Paysanne de porter la question des OGM. Et donc ça s'est mis dans le paysage, on va dire, de la contestation. Et actuellement, les réseaux de désobéissance civile... sont quand même portés par Extinction Rebellion, Letzte Generation en Allemagne, nous ça serait plutôt Dernière Rénovation, et maintenant, je ne sais plus d'ailleurs, c'est plus Dernière Rénovation, ça a été requalifié, mais enfin bref, c'est tous les réseaux qui se sont mis en maillage ou en réseau, justement, transnationaux, pour promouvoir ce type d'action au nom de la désobéissance civile.
En France, parmi les réseaux les plus actifs dans les mouvements de désobéissance civile, on retrouve les soulèvements de la terre. Ce collectif s'est notamment fait connaître dans la lutte contre l'agro-industrie et l'accaparement des terres, avec comme credo une certaine radicalité.
Je m'appelle Mélanie, j'ai 37 ans et je suis au comité rennais des soulèvements de la terre.
Comme d'autres militants que nous avons rencontrés, elle ne se reconnaît pas totalement dans ce terme de désobéissance civile.
Nous, on ne dit pas qu'on fait de la désobéissance civile. On assume de faire de l'illégalité, mais en fait, on n'utilise pas trop cette dichotomie légale ou illégale. En fait, peu importe que ça soit légal ou illégal, ce qui est important, c'est est-ce que stratégiquement, ça va être efficace pour atteindre les objectifs recherchés. Et nous, on ne cherche pas forcément à aller en procès, au contraire. Et c'est un peu ça qui fait la beauté des soulèvements, c'est qu'il y a plein de personnes qui viennent à visage découvert, et il y a aussi des gens qui se masquent pour justement faire les gestes de désarmement, parce qu'en fait, ils sont assez... Ils peuvent être très impactants quand il y a des usines, des cimenteries qui sont désarmées.
À la place, ils préfèrent un terme emprunté au mouvement anarchiste.
On utilise beaucoup plus le terme d'action directe et d'essayer de démocratiser ces gestes-là et que ça ne soit pas que des petits groupes de nuit masqués qui l'utilisent, mais voilà, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui viennent et qui se soutiennent les unes les autres pour faire des gestes impactants. Et comme ça, quand on rentre chez nous, on n'a pas juste fait une manif, on n'a pas juste fait le tour du centre-ville et on est rentré chez soi. On se dit que, en fait, voilà, si on a désarmé une bassine, l'eau de la bassine est retournée dans la rivière. Si on sort d'une cimenterie, la cimenterie, elle redémarre pas.
L'objectif des écologistes n'est plus de se battre contre une loi, mais au contraire de la faire respecter par l'État. De nombreuses mesures de protection de l'environnement existent aujourd'hui, mais elles sont soit rarement appliquées, soit vidées de leur substance, voire carrément ignorées, à l'image de l'interdiction du glyphosate, ce pesticide classé cancérogène probable. La Commission européenne a autorisé sa commercialisation jusqu'en 2033 à l'encontre du principe de précaution. Voulue par le président de la République Emmanuel Macron, la Convention citoyenne pour le climat a accouché de 149 propositions pour ralentir le réchauffement climatique. Mais 90% des mesures ont été abandonnées par le gouvernement. Face à cette inaction, le rôle des militants écologistes change. Un constat que partage le chercheur Albert Augien.
Dans la désobéissance civile, il faut qu'il y ait une loi et qu'on enfreigne cette loi pour la faire changer. Mais dans l'urgence climatique, les lois, elles existent justement au contraire. C'est-à-dire que les lois exigent qu'on agisse. Et donc, vous ne pouvez pas vous mettre en désobéissance contre des lois que les gouvernements ont signées et qui les obligent à faire de l'action climatique. Pour rigoler, moi, je dis avec des activistes, je parlais toujours de ça, je disais, pourquoi vous appelez ça désobéissance civile ? C'est un vrai problème, puisque vous ne vous opposez à aucune loi, puisque toutes les lois, en fait, elles disent qu'il faut faire de l'action climatique. Au maximum, ils voudraient que les gouvernements appliquent les lois qu'ils ont eux-mêmes votées.
Des militants qui font appliquer la loi, mais ce n'est pas censé être le rôle de la justice. Ils portent la voix des scientifiques. Ils agissent à leur échelle pour sauver la planète. Mais rien ne se passe. Dans les rangs des militants, la frustration se ressent. Certains empruntent alors d'autres chemins avec des méthodes considérées comme plus radicales.
Actuellement, la désobéissance civile est encore un moment où on réfléchit, mais on réfléchit à aller un peu plus loin.
Sylvie Olitreau, sociologue.
Bon, clairement, le sabotage est quand même aussi une autre solution qui arrive et qui, du coup, là, c'est une tension assez forte dans le mouvement, entre les différentes manières de faire de la désobéissance civile, si on veut dire. Généralement, un écologiste dira toujours qu'il n'est pas contre. On va dire pas contre un sabotage, si c'est pour la protection de la nature, si c'est au nom de l'intérêt général. Mais n'empêche que même quand même dans le milieu, bon, il y en a certains qui sont plus proches du sabotage, on va dire, et d'autres qui vont le contester, parce que là, on rentre effectivement dans un degré où on peut se faire criminaliser beaucoup plus facilement et rapidement. Parce que c'est un illégalisme qui va au-delà de simplement une obstruction dans une voie publique sans dégradation.
À la seule chauffe-eau qui déclare la guerre au quartier. Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT. Ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Ça fait des mois qu'on te suit, toi et ton groupuscule. On sait tout sur ta vie et celle de ta cellule. Tu t'intéresses au train, tu flânes près des chemins de fer. Si j'en crois les témoins, t'as même pris les horaires. Dans ta bibliothèque, paraît qu'il y a des bouquins. Et d'après notre enquête, t'en as même lu certains. UHT, ultime hyper total gauche. À gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez Désobéir au droit et à l'œil, le deuxième épisode de la série Démocrache, réalisée par les étudiantes et étudiants en master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Une menace majeure pour la démocratie. Ce sont les mots de l'ONU qui s'alarmaient dans un rapport publié en février dernier de l'ampleur de la répression contre les militants environnementaux en Europe. En France, ces dernières années, plusieurs observateurs ont remarqué une accentuation de la répression des mouvements écologistes par les forces de l'ordre. Dans un entretien aux médias reporters en mai, Michel Forst, le rapporteur des Nations Unies, qualifiait même la France de pire pays d'Europe en matière de répression des militants écolos.
Rappelez-vous, en 2009, une ZAD s'installe à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique. Des centaines de militants occupent des terres agricoles pour protester contre le projet de construction d'un immense aéroport, censé désengorger l'actuel aéroport de Nantes. Jusqu'à 40 000 personnes prennent part à la lutte. Face à cette mobilisation, en 2012, l'État mobilise plus de 2000 policiers et gendarmes pour expulser les zadistes. C'est l'opération César. Les affrontements entre militants et forces de l'ordre sont particulièrement intenses. Les autorités sont finalement mises en échec et désertent le terrain. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes demeure un symbole de résistance, mais aussi un symbole de la répression policière. Les affrontements ont fait 272 blessés parmi les manifestants et 77 parmi les gendarmes, qui ont tiré plus de 10 000 grenades.
Ce n'est pas la seule action de désobéissance civile à avoir été durement réprimée. Un des exemples les plus marquants, c'est sans doute ce qu'il s'est passé en 2014 lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens dans le Tarn. Ce projet de barrage destiné à irriguer des terres agricoles est vivement critiqué par les écologistes. Une ZAD s'y construit et des militants s'y installent. L'action de désobéissance civile est réprimée avec force. Rémi Fraisse, botaniste de 21 ans, est tué par une grenade offensive lancée par un gendarme.
C'est un peu le mort de notre génération, quoi. Il y en a eu d'autres, hein, des tués, puis des tués par la police, il y en a tous les mois dans les banlieues, du coup. Mais oui, sans doute que dans le mouvement écolo, ça a été un sacré tournant. Et puis ce qui s'est passé à Sainte-Soline 2, il y a eu quand même deux personnes dans le coma pendant des semaines.
Sainte-Soline, vous vous souvenez? Cette mobilisation organisée contre les méga-bassines par les soulèvements de la terre dans les Deux-Sèvres.
Donc pour vous, toujours la même mission, vous portez à hauteur du convoi bleu, à distance de tir, vous avez l'usage des armes et vous continuez à effectuer des tirs de dispersion.
Les méga-bassines, vous savez, ces réservoirs géants mis en place pour irriguer les terres agricoles. Le projet est soutenu par le gouvernement et massivement financé par l'argent public. Il est censé lutter contre les sécheresses engendrées par le réchauffement climatique.
Donc je ne vois pas les raisons pour lesquelles je serais contre un projet légal, soutenu par les élus, et pour lesquels les scientifiques disent qu'il va dans le bon sens.
Mais en réalité, ce système profite surtout aux plus grosses exploitations agricoles, en particulier les céréaliers. Cette récupération de l'eau de pluie perturbe le cycle naturel de l'eau et assèche les sols. En 2022, ils étaient près de 30 000 à manifester contre ces méga-bassines. La réponse des autorités a été massive. Selon la Ligue des droits de l'homme, 3200 gendarmes ont été mobilisés, appuyés par 9 hélicoptères, 4 blindés et 4 camions à eau. Pour vous donner une idée, 2 grenades lacrymogènes étaient tirées toutes les 3 secondes en moyenne, soit 20 fois plus que lors de la répression de la ZAD de Sivens en 2014. Résultat, une trentaine de blessés côté manifestants et une soixantaine côté gendarmes. Un an plus tard, le deuxième acte de la mobilisation est enclenché et le bilan est encore plus lourd. 200 manifestants sont blessés. Une intensification des violences qui inquiète Mélanie, militante au soulèvement de la terre.
Là, maintenant, à chaque manif des soulèvements de la terre, il y a de plus en plus de policiers qui quadrillent les camps des militants et tout ça. Et c'est sûr que ça prouve que la démocratie ne fonctionne pas, quoi, s'il n'y a pas de dialogue possible.
Cette absence de dialogue est l'une des raisons qui incite les citoyens à s'opposer à ce qu'ils perçoivent comme une injustice. Surtout lorsqu'ils estiment avoir épuisé tous les moyens de recours contre l'État. À Glomel, en Centre-Bretagne, nous avons rencontré des habitants confrontés à une situation qui illustre ces tensions démocratiques. La multinationale Imerys a obtenu le feu vert pour agrandir un site d'extraction minière. Selon une enquête du média indépendant Splane, la mine pollue une réserve naturelle située à proximité. Face au silence persistant de l'État et de l'entreprise, certains habitants se sentent poussés à agir.
Merci beaucoup à toutes et tous d'être là.
Solène, du collectif Mine de Rien.
Donc ça va être une manifestive, une marche avec de la musique. On va marcher jusqu'au pied du Sabès, la verse de déchets miniers, qui est bien cachée de la population, mais qui n'en pollue pas moins à la fois l'air et l'eau.
Écoutez les Mines de Rien, on veut pas rejet toxique. nous autres opposants à la mine, j'ai coutume de dire qu'on n'est pas des, on n'est pas des dictateurs.
Jean-Yves Jégot, élu au conseil municipal et opposant à l'extension de la mine.
Si les Gloméloises, les Gloméloises veulent une mine demain pour des raisons qui leur appartiennent, je veux dire, on ne va pas se mettre en travers, hein, bien évidemment, à partir du moment où leur consentement est parfaitement éclairé et à partir du moment où il y a eu une information sincère, des études d'impact sincères qui ont été menées. Mais comment dire, comment faire vivre une démocratie quand on manipule l'opinion, enfin, tout ça me paraît, je suis pas un spécialiste de la question, mais enfin tout ça me paraît pas très cohérent quand même.
La décision d'autoriser l'extension de la mine alors que des études prouvent qu'elle pollue l'environnement crée des tensions au sein même du conseil municipal.
Pour ce qui est des élus locaux, alors je suis moi-même élu, hein, c'est très tendu. C'est très tendu avec un sujet là qui est le sujet d'Imiris, qui nous empoisonne. Et c'est pour ça qu'il peut m'arriver de dire qu'avec Imiris, on a le droit à des pollutions environnementales, mais que c'est également une pollution sociale en fait. Je vais vous citer un exemple, je vais vous parler du dernier conseil. Et, il s'est terminé sur une intervention de ma part où j'ai demandé au maire je lui dis plutôt qu'il ferait bien de s'inquiéter de savoir s'il a été élu pour protéger les intérêts des Gloméloises, des Gloméloises et de Glomel ou pour protéger les intérêts d'Imiris. Donc c'est quand même assez violent, quoi. Ouais.
Contacté, la mairie de Glomel n'a pas répondu à notre demande d'interview.
Les opposants à l'extension de la mine de Glomel n'en sont qu'au début de leur lutte. Comme dans le Tarn, dans les Deux-Sèvres et un peu partout en France, comme en Europe et dans le reste du monde, des militants s'organisent et luttent contre des projets nocifs pour l'environnement et les populations. Face à l'inaction de l'État, ils agissent pour protéger le climat. Si la répression des mouvements écologistes est de plus en plus ferme, les contours légaux de la désobéissance civile, eux, restent encore flous, et le sort des militants devant la justice a tendance à s'alléger.
Mais il y a quand même une jurisprudence qui commence à arriver sur les questions de désobéissance civile. Et ce qu'on remarque notamment en France, c'est qu'il y a quand même beaucoup de peines de relax ou des peines assez symboliques, donc qui marquent aussi que pour les magistrats, voilà, c'est pas forcément un illégalisme, même s'il y a un rappel à la loi, même si l'idée, c'est quand même de dire que, bon, effectivement, si on regarde les catégories de droit, bah, il y a eu des illégalismes qui se sont produits, mais ils ont plutôt une vision, je dirais... ouverte de la question de la désobéissance civile.
En septembre 2024, des scientifiques étaient jugés pour s'être postés dans une galerie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ils donnaient l'alerte sur l'urgence climatique. La juge du tribunal de police de Paris les a tous relaxés, estimant que leur action relevait de l'état de nécessité reconnu par le code pénal. La justice peut donc reconnaître, à certains moments, la légitimité de ces actions pour défendre l'environnement. Un garde-fou contre un avenir politique incertain.
C'était Chiara Oduro, Luna Baudouin-Goujon et Robin Peter dans Désobéir au droit et à l'œil, le deuxième épisode de la série Démocrache, réalisé par les étudiantes et étudiants de Sciences Po Rennes. Dans cet épisode, vous avez pu entendre Odyssey de Rival Consoles, un extrait de l'émission C'est ce soir, des archives de l'INA sur la mobilisation au Larzac, un extrait de l'émission Complément d'enquête, Ultime Hyper Total Gauche de La Parisienne Libérée, Ami Imaginaire de Billy et Solar Sailor de Daft Punk. Retrouvez Zoé Diraison, Gilles Martel et Nicolas Thomas pour Que la force de l'ordre soit avec toi, le troisième épisode de notre série Démocrache.